Bien, alors on reprend aujourd'hui la formation qu'on a intitulée « Toujours prêt », l'apologétique chrétienne pour tous. L'apologétique qui signifie ce domaine de la théologie qui s'attache à défendre la foi chrétienne. Non pas la défendre comme si elle avait besoin d'être défendue ou excusée, mais défendre dans le sens de donner des raisons pour la foi chrétienne, pour la doctrine chrétienne. Cet après-midi, on va s'attacher à un sujet qui est le suivant, croire avec raison, avec une question. Est-ce que pour croire à la foi chrétienne, est-ce que pour être chrétien, il faut, pour ainsi dire, se suicider intellectuellement? Est-ce qu'il faut mettre de côté nos capacités intellectuelles et rationnelles pour être chrétien? Est-ce qu'être chrétien, ça signifie faire des choses qui seraient même contradictoires avec la raison, contradictoires avec l'intelligence, ou croire des choses qui sont contradictoires? Cet après-midi, on va regarder un certain nombre de sujets. Vous avez le plan. Et certains de ces sujets, on les a déjà abordés. Enfin, vous les avez déjà abordés. D'autres... les plans, ils sont là.
Oui, je vais distribuer. Jonas va les distribuer.
Parce que Jonas a un esprit de service.
Oui.
Pardon. Voilà, les plans. On va aborder un certain nombre de sujets qu'on a déjà abordés, qui ont déjà été abordés dans le cadre de cette formation, ou qui seront abordés plus en détail, plus en profondeur à l'avenir. Jonas est d'ailleurs bien plus qualifié que moi pour traiter un certain nombre de ces choses. Donc il ne faudra pas que tu hésites, Jonas, à intervenir ou à préciser si jamais il y a des choses qui méritent d'être précisées. Alors cet après-midi, on va survoler ces sujets. Malheureusement, on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail pour chacun d'entre eux. L'idée principale que j'aimerais que nous retenions cet après-midi, et j'espère que vous en sortirez convaincus, c'est que pour être un chrétien, on n'a pas besoin de se suicider intellectuellement. Au contraire, la foi chrétienne est rationnelle, elle est logique, elle est cohérente. Elle est rationnelle, elle est logique, elle est cohérente. Alors il y a une idée reçue qui circule pas mal, c'est que la religion, c'est pour les faibles et les ignorants. Cette idée est véhiculée de plus en plus par un mouvement qu'on appelle les nouveaux athées, ou le nouvel athéisme, qui essaye de montrer que si on est un être humain évolué, éclairé, on peut se débarrasser des chaînes de la religion et devenir vraiment libre, voilà, accéder à la vraie liberté en se débarrassant de la religion. Cette idée, elle est attirante pour beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que quand on observe, notamment les chrétiens, on est là pour parler des chrétiens, quand on observe les chrétiens, on voit des gens qui croient à des choses bizarres, hein, qui croient à l'existence d'un être immatériel, qui croient à l'existence d'un monde spirituel qu'on ne voit pas, qui croient à des forces qu'on ne peut pas observer ou mesurer avec les outils de la science. Ils voient des gens qui croient à un au-delà, une vie après la mort, qui croient à des choses bizarres comme ça. Ils voient des gens, non seulement qui croient à des choses bizarres, comme pour ce qui est des chrétiens aussi, on pourrait mentionner la résurrection de Jésus, la naissance virginale, les miracles, etc., etc. Non seulement ils croient à des choses bizarres, mais les chrétiens font des choses bizarres. Ils ferment les yeux, ils parlent à quelqu'un qui n'est pas là, ils lisent un livre qui, pour certaines parties, date de plus de 3000 ans, en disant que c'est la parole de Dieu, etc., etc. Donc non seulement on croit à des choses bizarres, mais on fait des choses bizarres. Alors évidemment, l'idée que la religion c'est pour les faibles et les ignorants, c'est une idée séduisante. Le problème, c'est que bien souvent, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est un petit peu intimidés par ce discours-là. Et on se dit, ouais, c'est vrai finalement. Surtout quand on vit dans un contexte comme le contexte français, où les chrétiens qui croient à la Bible sont une si petite minorité, on regarde autour de nous, on se dit, ben ouais, mince, alors c'est vrai, je suis pas comme les autres. Je suis un peu bizarre, je fais des choses bizarres, je crois à des choses bizarres. Est-ce que finalement, il n'y a pas une séparation entre, ou une contradiction entre la raison et puis ma pratique de la foi chrétienne, ou ma croyance en tant que chrétien? Alors qu'est-ce qui se passe bien souvent? On excuse tout ce qu'on fait et tout ce qu'on croit derrière certains mots, comme le mot foi. Ah mais ça c'est une question de foi. Ou les mots comme spirituel, voyez. Et je pense que parfois on abuse de ce langage. Et je pense que parfois on joue le jeu des gens qui nous critiquent. Alors qu'en réalité, comme on va le voir, la foi chrétienne est rationnelle, elle est logique, elle est cohérente. Premier point alors, idée reçue, la foi et la raison sont des ennemis, la foi et la raison sont contradictoires. Vous savez, la Bible n'oppose jamais la foi et la raison, jamais. La Bible n'est jamais contre l'investigation intellectuelle. Au contraire, si nous lisons la Bible, on voit que c'est Dieu qui nous a dotés d'une intelligence, qui nous invite à l'exercer. On verra tout à l'heure qu'il y a certaines limites à ce principe, mais quand même, Dieu nous invite à exercer notre intelligence. D'ailleurs, il s'est révélé à nous dans un livre où il y a de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire. Il sollicite notre intelligence pour se faire connaître à nous. Alors, un des antagonismes qu'on a créé de toutes pièces se trouve entre ce qu'on appelle le rationnel et le spirituel. Par exemple, croire qu'on peut avoir une relation personnelle avec un être immatériel et invisible. Ça, c'est pas rationnel, mais c'est spirituel. Comprenez ? Alors, on l'excuse. Certes, c'est pas rationnel, mais c'est spirituel. En réalité, c'est faux. Croire qu'on peut avoir une relation personnelle avec un être immatériel et invisible, c'est certes spirituel, mais c'est aussi rationnel. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Quand on oppose le rationnel et le spirituel, on est en train d'opposer des catégories qui sont sur des niveaux différents. Le contraire de spirituel, c'est quoi ? C'est pas rationnel, c'est charnel ou matériel, je dirais. Ça dépend du sens qu'on attache à spirituel, effectivement. Spirituel en sens de qualité morale, effectivement, dans la Bible, spirituel, charnel, mais dans le sens de dimension dans le monde qui a été créé, on a une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Donc l'opposé, ce serait le monde matériel. Monde spirituel, monde matériel. Quel est le contraire de rationnel ? Irrationnel. Exactement. Vous voyez ? Donc si on voulait opposer quelque chose au rationnel, ce serait l'irrationnel. Si on voulait opposer quelque chose au spirituel, ce serait le charnel ou le matériel. Opposer la raison et l'esprit, c'est comme opposer le corps et les émotions. L'être humain est doté d'un esprit, il est doté d'une âme, aussi d'un corps, il est doté d'émotions, il est doté d'une raison, d'une intelligence. Toutes ces choses-là n'entrent pas en contradiction les unes avec les autres. L'être humain est un tout. Lorsqu'on exerce une de nos facultés, ça ne veut pas dire qu'on est en train de nier les autres de nos facultés. On peut éprouver des émotions envers quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation sans que cela nie ce qu'on fait avec notre corps. D'ailleurs, les deux sont souvent liés, le corps et les émotions. Et de même, on peut exercer nos facultés corporelles sans que cela nie ou s'oppose ou contredise nos facultés émotionnelles. De même avec l'esprit et la raison. On peut exercer nos facultés spirituelles, prier, adorer Dieu, hein, lire la Bible comme parole de Dieu sans que cela contredise nos facultés rationnelles. Nous avons une raison et vice-versa. Ok, première idée reçue, donc, qu'il faut refuser. Le rationnel et le spirituel ne sont pas opposés. Mais quand quelqu'un dit « Moi, je suis un être rationnel, je ne crois que ce que je vois », qu'est-ce qu'il veut dire ? Il se trompe par rapport au terme rationnel. Il est en train d'utiliser le mot rationnel comme s'il voulait dire, en fait, matérialiste. « Moi, je suis un être matérialiste, je ne crois que ce que je vois ». Et ce qu'une personne qui dit ça est en train de dire, il est en train de nier que l'homme a une âme ou un esprit et qu'il est capable d'exercer des facultés spirituelles. Il est en train de nier qu'il y a une partie du monde qui est spirituelle. D'accord ? Quand quelqu'un dit « Moi, je suis un être rationnel, je ne crois que ce que je vois », vous devriez le corriger et dire « Moi aussi, je suis un être rationnel. Je suis aussi un être spirituel. Et je crois effectivement ce que je vois, mais pas seulement. » Alors vous devriez le corriger et dire « Non, n'utilise pas le terme rationnel, mais utilise le terme matérialiste. » Et posez-lui des questions. Est-ce que ça veut dire que tu nies que l'homme a une âme ? Est-ce que l'homme n'est qu'un corps ? Est-ce que l'homme n'est que matière ? Et s'il veut être cohérent avec lui-même, il dirait oui. S'il dit non, l'homme n'est pas que matière, il a une âme, alors il faut lui poser des questions. Eh bien, comment le sais-tu ? Comment exerces-tu tes facultés spirituelles ? Comment peux-tu dire que tu crois que ce que tu vois, si à côté de ça, tu dis en même temps que tu exerces des facultés spirituelles qui ne sont pas vérifiables avec des outils purement matériels ? D'accord ? Donc, quand quelqu'un dit « je ne crois que ce que je vois », il est en train d'avouer un présupposé qu'il a. Et ce présupposé, je l'ai dit, c'est qu'il n'y a que de la matière et rien d'autre. Mais sur la base de ce présupposé, et beaucoup de gens fonctionnent sur la base de ce présupposé, la seule façon d'accéder à la vérité, c'est par des moyens scientifiques, n'est-ce pas ? Des moyens matériels, l'observation de ce qui est matériel, l'observation de la nature, l'observation du monde qu'on dit le monde sensible, d'accord ? Et quels sont les cinq sens ? Jonas, tu te souviens, on a parlé de ça, les cinq sens en français, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Mais en réalité, beaucoup de choses dans le monde réel échappent aux outils scientifiques. Et ça, c'est utile de le rappeler aux gens qui ont ce présupposé. Je cite que deux exemples, mais on pourrait en citer d'autres. Le jugement esthétique échappe aux outils scientifiques. Quand vous êtes devant un magnifique coucher de soleil et que vous êtes juste ébloui par la beauté du paysage qui s'étend devant vous, et vous vous tournez vers votre conjoint ou vers votre ami, qu'est-ce que c'est magnifique, n'est-ce pas? Et la personne vous dit non, prouve-le-moi. Comment le sais-tu que c'est magnifique? Prouve-moi avec des outils scientifiques que vraiment ce que tu vois est beau. Impossible de le mesurer. Impossible de mesurer un jugement esthétique avec les outils scientifiques. Un autre exemple. La vérité historique. Comment déterminer la vérité historique avec les outils de la science? Par exemple, je pose cette Bible sur cette table. Et là, vous pouvez tous la voir, cette Bible. Elle a une certaine forme, un certain poids, une certaine position sur cette table, n'est-ce pas? Il est à peu près 3h moins 5, et cette Bible est effectivement sur cette table. On est tous d'accord? Maintenant, qui est capable de me prouver avec des outils scientifiques que cette Bible était bien là il y a 10 secondes? Avec cette forme exacte, ce poids exact, cette position exacte, à cette heure exacte, sur cette table. Impossible de le prouver avec les outils de la science. N'est-ce pas? On est d'accord? Pourtant, c'est une vérité historique avec laquelle on est d'accord. Donc, quand on veut déterminer une vérité qui est, par exemple, historique, ou une vérité qui relève du domaine du jugement esthétique, on est obligé de faire appel à d'autres outils que les outils de la science. Donc, première idée reçue, le rationnel s'oppose au spirituel. Deuxième idée reçue, on accède à la vérité qu'avec les outils de la science. Tout ça, c'est faux. Troisième idée reçue, la foi est un saut dans le vide. Il faut faire abstraction de son intelligence, faire confiance à des choses dont on ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas? Et sauter dans le vide ou faire un pas dans le noir. Il y a cette scène dans un des épisodes d'Indiana Jones où il est devant un grand ravin. Vous vous souvenez de cette scène? Et puis, je sais plus, c'est dans les... je sais plus quel est le titre, mais quand il cherche le Saint Graal, là. Et puis, il est devant ce grand ravin, sans fond, et puis, il y a une parole qui est dite par rapport au fait d'avoir foi ou d'avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un pas dans le vide. Et puis, au miracle, il y a une passerelle qui apparaît, qui était là tout le temps, mais qu'il voyait pas. Mais ça, c'est pas une bonne illustration de la foi biblique. Dieu ne nous invite pas à avancer dans le noir ou à faire un pas dans le vide. Dieu nous donne des raisons de croire. Il sollicite notre intelligence. Il veut que nous croyions sur la base d'informations qu'il nous donne, sur la base de faits historiques et d'informations qu'il nous donne. Dieu nous donne des raisons de croire. Il ne nous demande pas de croire sans raison. D'ailleurs, le chapitre par excellence qui traite de la foi, c'est Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas? Dans Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un thème qui se répète. C'est que tous ces héros de la foi, ces gens qui sont érigés comme des modèles pour nous, ils croient en Dieu sur la base de choses que Dieu a faites et de choses que Dieu a dites. Ils ne croient pas sur aucune base, ils croient sur une base qui est bien solide. Dieu leur a donné des raisons de croire et c'est sur cette base-là qu'ils ont la foi. La foi chrétienne, vous voyez, c'est une foi intelligente, ce n'est pas une foi ignorante. Avant de poursuivre avec le deuxième point, juste quelques notions qui méritent d'être définies. On parle parfois de métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique? La métaphysique, c'est ce qui dépasse la physique. D'accord? Donc vous aurez compris, si vous avez suivi, que les chrétiens, certaines croyances chrétiennes relèvent de la métaphysique, parce que ce sont des choses qui dépassent la physique. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mesurer avec les outils de la science, ce ne sont pas des choses matérielles, ça dépasse la physique. Ça relève de ce domaine qu'on appelle la métaphysique. La folie. Donc parfois on entend dire que les chrétiens sont fous. Tu crois à la résurrection de Jésus, tu es fou, tu es complètement fou. Qu'est-ce que c'est que la folie? La folie, c'est ce qui défie la raison, ce qui contredit la raison. Et on va le voir dans tout à l'heure, croire par exemple à la résurrection de Jésus ou au miracle de Jésus, ça ne contredit pas la raison. Donc ça, c'est une idée reçue. D'ailleurs, 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25 nous donne une perspective intéressante sur ces termes que sont folie et sagesse. Voici ce que Paul dit. La parole de la croix, donc l'évangile, est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. D'accord ? Elle apparaît comme une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne fonctionnent pas sur les mêmes présupposés que nous. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? Là, on touche à un élément essentiel de notre foi chrétienne, c'est que le monde est déchu. Et à cause de la chute, tous les aspects, toutes les facultés de l'homme ont été corrompues, y compris notre intelligence. Donc sans Dieu, et ça aussi on y reviendra un peu plus tard, sans Dieu, on ne peut pas vraiment exercer notre intelligence. Sans Dieu, on ne peut pas vraiment exercer notre raison. On a besoin d'être éclairé de l'extérieur. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et là, quand il dit folie, il n'est pas en train de dire dans l'absolu que la prédication est folle ou que l'évangile, c'est un message fou qui défie la raison. Il est en train de dire, ça, c'est le point de vue d'un non-croyant. On écoute un pasteur prêcher, ça a l'air complètement fou ce qu'il dit. On écoute l'évangile, on apprend au sujet de la résurrection de Jésus ou de la naissance virginale de Jésus, et ça a l'air fou. Donc il est en train de parler du point de vue des non-chrétiens. Les juifs demandent des miracles, et les grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu, en fait, si les guillemets existaient, il aurait mis folie entre guillemets, vous voyez, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse entre guillemets de Dieu, puisque Dieu n'est pas faible, est plus forte que les hommes. Et puis un troisième terme qui mérite d'être défini, le terme d'absurdité. Donc la folie, c'est ce qui défie la raison, mais l'absurdité, c'est ce qui défie la logique. Donc par exemple, si je vous disais que ce micro existe et qu'en même temps il n'existe pas, c'est une affirmation absurde, ça défie la logique. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Si je vous disais 2 plus 2 égale 3, 4 et 5, ça défie la logique. Les trois ne peuvent pas être vrais en même temps. Vous comprenez ? Ça, ce sont des affirmations absurdes. Quand quelqu'un dit « Est-ce que Dieu peut créer un être plus puissant que lui ?» C'est une question absurde. Ça défie la logique. D'accord ? Donc parfois, en tant que chrétien, et on est en train de discuter avec des non-croyants, il faut pouvoir reconnaître ces affirmations-là ou ces raisonnements-là qui sont absurdes, qui défient la logique. Et il faut pouvoir leur dire, mais non, mais là, tu es en train de poser une question absurde qui n'a pas de réponse. La question elle-même ne peut pas être posée. Ok, alors maintenant, on va voir trois points essentiels à la foi chrétienne. Et on va voir pourquoi on peut les croire avec raison. Ce sont les points peut-être les plus fondamentaux, l'existence de Dieu, la fiabilité de la Bible, et troisièmement, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Évidemment, un des présupposés les plus importants concerne l'existence de Dieu. Si vous parlez à quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un Dieu, ça va être totalement, vous allez commencer à un endroit totalement différent par rapport à si vous parliez à quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu, comme un musulman ou un juif, d'accord ? Et si vous parlez à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça va être totalement différent. Donc c'est un présupposé vraiment basique. Et on a plusieurs arguments, certains ont déjà été évoqués dans le cadre de cette formation, donc je ne vais pas m'y étendre. Mais j'en mentionne quatre ici. L'argument cosmologique, et encore une fois, rappelez-vous, chacun de ces arguments a pour but cet après-midi de vous montrer que croire en Dieu, ce n'est pas irrationnel, mais au contraire, c'est rationnel, c'est logique, c'est cohérent avec l'observation de ce qu'il y a autour de nous, d'accord ? En dépit de ce que d'autres voudraient nous faire croire. L'argument cosmologique, pour le simplifier, c'est le suivant. On part de l'observation que quelque chose existe, d'accord ? Quelque chose existe. Tout n'est pas qu'une simple illusion. Quelque chose existe. On ne vit pas dans Matrix. Quelque chose existe. À partir du moment où quelque chose existe, il n'y a que trois possibilités pour expliquer que cette chose existe. Soit cette chose a toujours existé, soit cette chose est apparue à un moment, mais est apparue toute seule, soit cette chose a été créée grâce à un agent extérieur tout-puissant, intelligent et éternel. Il n'y a que trois possibilités. Si vous en voyez une autre, n'hésitez pas à me le dire. Alors si ce qui existe a toujours existé, ça pose un problème. Jonas nous en a déjà parlé il y a quelques mois, peut-être même quelques années, non peut-être pas, mais il y a un an peut-être déjà. C'est que l'infinité, le temps infini n'existe pas. Et Jonas nous avait bien montré ça, c'est impossible, c'est une absurdité en l'occurrence, parce que ça défie la logique. Pourquoi ? Parce que si le temps est infini dans le passé, ça voudrait dire qu'avant votre naissance, une infinité de temps se serait écoulée. Mais une infinité de temps, ça ne s'écoule jamais, par définition. Donc vous ne seriez jamais né. Vous comprenez l'absurdité de la situation ? Donc ne mentionnons pas Dieu pour l'instant. Nous vivons dans le temps, ce que nous observons autour de nous, c'est l'espace-temps, mais l'espace-temps, par définition, ne peut pas être éternel. Ça ne peut pas avoir toujours existé, vous suivez ? Donc c'est une absurdité, ça défie la logique. Ok, alors est-ce que c'est apparu tout seul ? Eh bien, c'est Stephen Hawking, dans un livre qui vient de sortir il y a quelques mois, qui a dit qu'on pouvait expliquer l'apparition de l'univers à partir de du seul principe de la loi de la gravité. Le problème, c'est qu'il est en train déjà de reconnaître un agent originel qui aurait provoqué cette création. Il n'explique pas l'apparition de cet agent-là, la loi de la gravité en l'occurrence. Donc si on imagine qu'il n'y a rien et qu'à un moment donné, il y a quelque chose, comment, en toute logique, imaginer que ça a pu apparaître tout seul ? Parce que s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune cause. S'il n'y a aucune cause, comment pourrait-il y avoir un effet ? Donc vous voyez, l'idée que l'univers, l'espace-temps, serait apparu tout seul est également impossible du point de vue de la logique. C'est également une absurdité. Sans cause, comment pourrait-il y avoir un effet ? Alors la troisième possibilité, c'est que l'espace-temps ait été créé sous l'effet d'un agent extérieur tout-puissant, intelligent et éternel, c'est-à-dire en dehors du temps. Et pour un tel agent, que nous pourrions appeler Dieu, l'éternité ne pose pas un problème, puisqu'il est en dehors du temps. Il est intelligent car il a pu décider de créer. Il est tout-puissant car il a pu le faire. Ça, c'est l'argument cosmologique résumé brièvement et maladroitement. Jonas pourrait faire un bien meilleur travail que moi sur ce niveau-là. Deuxième argument, l'argument du dessein intelligent. L'argument du dessein intelligent, c'est le suivant. On observe le monde qui est autour de nous et on remarque qu'il est extrêmement bien ordonné. Extrêmement bien ordonné. Tous les paramètres du monde qui nous entoure sont réglés si précisément que c'est pratiquement une impossibilité statistique que ça se soit assemblé tout seul. D'accord ? C'est comme si moi je prenais la sono là, je la réduisais, je la démontais en 1000 pièces, 10 000 pièces, en enlevant chaque vis, chaque partie, je la mettais dans un grand sac, et je secoue le sac bien fort, et il en ressort une sono tout assemblée et en état de fonctionnement. Évidemment, ça vous paraîtrait impossible, très peu probable. Mais si vous regardez le monde qui nous entoure, c'est la même chose, voire c'est pire encore, c'est encore plus improbable. Tout est réglé si précisément que c'est pratiquement une impossibilité statistique que ça se soit passé par hasard. D'ailleurs, on parle parfois du principe anthropique, et ce principe anthropique, c'est quelque chose qu'on observe dans la nature autour de nous. Et selon ce principe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe concourt, tous les paramètres en tout cas qu'on peut mesurer concourent à l'apparition de la vie sur Terre et à la possibilité de la vie sur Terre, notamment de la vie humaine. Les conditions sont optimales pour que l'être humain puisse vivre sur Terre. Ça, c'est le principe anthropique. Et ça, c'est l'argument du dessein intelligent. Alors, certains ont voulu contrecarrer cet argument en disant effectivement, il y avait une chance sur, je ne sais pas, disons 10 milliards pour que tous les paramètres soient réunis pour que l'être humain apparaisse sur Terre. Alors il explique en disant, imaginons qu'il y ait 10 milliards d'univers qu'on ne connaît pas. Alors s'il y a 10 milliards d'univers, il y en a bien un sur les 10 milliards où les conditions seront réunies. Mais en fait, cette idée de ces multiples univers soulève plus de problèmes qu'il n'en résout, et je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Troisièmement, l'argument moral. un argument qui a été développé par certains philosophes, notamment Emmanuel Kant. Et si je peux le résumer sans être un très grand philosophe, encore une fois, Jonas serait bien meilleur que moi. Voici comment fonctionne l'argument moral. On part du principe, on part de l'observation que tout le monde, tout être humain, a un certain sens du bien et du mal. Certes, le bien et le mal sont peut-être définis de façon différente en fonction des lieux, des cultures, mais en tout cas, il y a ce sens que certaines choses sont bien ou bonnes et d'autres sont mal ou mauvaises. Si l'être humain a un sens du bien et du mal, ce sens du bien et du mal n'a de sens que s'il se réfère à une justice. D'accord ? Une référence qui puisse faire la distinction entre le bien et le mal. Pour qu'une telle référence, pour qu'une telle justice existe, il faut, pour qu'elle ait du sens elle-même, qu'il y ait un jugement pour que le bien soit récompensé, le mal puni, sinon on pourrait faire l'un ou l'autre, peu importe, ça n'a aucune conséquence. Le problème, et voilà où apparaît le problème, c'est que quand on observe toujours ce qu'il y a autour de nous, un tel jugement n'existe pas parfaitement sur Terre. L'Ecclésiaste nous l'a bien rappelé. Un tel jugement n'existe pas sur Terre. Alors on se retrouve dans une situation de frustration. On a ce sens du bien et du mal, ce sens qu'il doit y avoir une justice, une référence, ce sens que pour que cette référence ait un sens, il faut qu'il y ait un jugement, une punition pour le mal, une récompense pour le bien, mais cela, on ne le trouve pas parfaitement sur Terre. Pour qu'on ne soit pas frustré comme ça, on est obligé d'admettre, dans ce cas, qu'il doit y avoir un jugement ailleurs que sur Terre. Donc, dans un au-delà. Pour admettre qu'il y a un jugement dans un au-delà, on est obligé d'admettre qu'il y a une vie après la mort. Qu'il y a quelque chose qui continue après la mort, du moins. Pour admettre qu'il y a un jugement après la mort, il faut admettre qu'il y ait un juge pour appliquer ce jugement. Pour admettre que ce juge puisse appliquer son jugement de façon parfaite, il faut admettre que ce juge soit omniscient pour connaître exactement le bien et le mal qu'auront accompli les êtres humains. Et enfin, pour que ce juge omniscient puisse appliquer parfaitement sa justice, il faut aussi qu'il soit tout-puissant pour que personne ne puisse s'y dérober. Donc vous voyez, à partir de l'observation que chaque être humain a un sens du bien et du mal, on aboutit à l'existence d'un juge tout-puissant et omniscient qui va exercer un jugement dans l'au-delà. Si on inversait l'argument, imaginons qu'il n'y a pas de juge dans l'au-delà pour exercer parfaitement sa justice. Il n'y a pas de justice. Ça veut donc dire que le sens du bien et du mal que les êtres humains éprouvent lui-même n'a pas lieu d'être. Et si personne ne fonctionne selon ces catégories de bien et de mal, alors c'est le chaos sur Terre. Chacun va faire ce qui est dans son intérêt, n'est-ce pas ? Et si moi je décide que c'est bien pour moi de battre ma femme et de vendre mes enfants parce que comme ça je peux m'enrichir, pourquoi pas ? Qui peut me dire que c'est pas bien ce que je fais ? Si j'ai la force et les moyens de le faire, qui peut me dire que c'est pas bien ? D'accord ? Même si le bien et le mal étaient le résultat de vote d'un vote majoritaire, on obtiendrait quand même, dans l'histoire, on obtiendrait quand même des situations de génocide, n'est-ce pas ? Des situations de totalitarisme, d'esclavagisme, s'il fallait simplement voter. Donc ça marche pas. Il y a une incohérence quelque part. C'est plus cohérent de penser qu'il y a un juge dans l'au-delà, un juge omniscient et tout-puissant qui exercera son jugement. Quatrième argument, l'argument de la souffrance. En ce qui concerne cet argument, on part de l'observation que la souffrance est désagréable. Certaines choses dont nous faisons l'expérience ici-bas sont désagréables. On l'appelle la souffrance. Quand on est malade, quand on est blessé, la souffrance physique, quand on est trahi, souffrance émotionnelle ou abandonné, souffrance psychologique aussi, la souffrance est désagréable. Et en même temps, on observe que la souffrance, elle est normale, elle est habituelle, elle est commune à tous les êtres humains, partout sur Terre. Alors voilà, on est face à un problème. On est face à un problème parce que s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a rien d'autre que ce qu'on peut observer, s'il n'y a rien d'autre que de la matière, alors cette souffrance qui est caractéristique de notre existence doit être acceptée. Et on doit se résigner à souffrir. On n'a même pas le droit, on n'a aucune base pour se plaindre. de cette souffrance. Elle fait partie de ta condition humaine. Alors tais-toi et souffre. Ou souffre et tais-toi. Et espère des jours meilleurs. Vous voyez, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucun sens ni de réponse à donner à la souffrance. Et ce serait absolument tragique, je ne sais pas si on peut vivre avec ça. Mais je crois que ça explique pourquoi il y a des suicides, des gens qui souffrent et qui n'ont aucun espoir, aucun sens à donner à cette souffrance. Et la seule délivrance qu'ils envisagent, c'est la mort qui mettra un terme à cette souffrance. Mais la souffrance, parce que précisément elle est désagréable, elle nous montre qu'il y a un problème dans notre condition humaine. Et elle pointe vers autre chose. C'est comme quand on met son doigt dans une flamme, ça fait mal. Le but de cette douleur est de nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et le réflexe est d'enlever son doigt, parce que notre doigt n'est pas fait pour aller dans les flammes, nos mains ne sont pas faites pour aller dans les flammes, dans le feu. De même, quand on souffre, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signe qui pointe vers autre chose, vers une autre réalité. Avec ces quatre arguments que j'ai évoqués, on peut dire avec le psalmiste au psaume 14 que finalement, c'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'athée, celui qui nie l'existence d'un Dieu, c'est lui qui est fou. C'est lui qui nie, qui croit quelque chose qui défie la raison. Quelqu'un a écrit un livre, ou un article, je crois, qui était intitulé « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Parce que ce qu'on observe autour de nous pointe vers l'existence d'un Dieu, bien au contraire. D'ailleurs, je vous mentionne ce livre de Schaeffer, « Dieu, illusion ou réalité ». Et il a écrit un autre livre qui s'appelle « La démission de la raison ». Tous ces livres existent en français. Où il montre que finalement, ceux qui nient l'existence de Dieu, ils ont en fait renoncé à vraiment utiliser leur raison de façon rationnelle. Deuxième point fondamental pour les chrétiens, pourquoi on peut croire avec raison à la Bible ? Ça, c'est la deuxième page. J'en ai déjà parlé un peu quand on avait évoqué la doctrine de l'Écriture dans le cadre de la formation théologique. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut croire avec raison à la Bible. La première, c'est que la Bible est un document qui est fiable historiquement. D'accord ? Je ne parle pas pour l'instant de la fiabilité de ce qui est dit, dans le sens du contenu des enseignements, mais la fiabilité des mots qui sont écrits sur les pages. Ce sont bien les mots qui ont été écrits par les auteurs originels, et on peut s'y fier en tant que document historique authentique. Pourquoi ? Parce que la conservation de ces textes a été exceptionnelle grâce au travail des copistes tout au long des siècles, dans l'Ancien Testament notamment. On a trouvé il y a quelques dizaines d'années des manuscrits dans une grotte près de la Mer Morte, et c'était des manuscrits qui dataient de plusieurs siècles avant les manuscrits les plus anciens qu'on avait pour une certaine section de la Bible. Alors, on a pu comparer ces deux versions, les manuscrits qui dataient de plusieurs siècles avant, et puis les manuscrits les plus anciens qu'on avait jusqu'alors. Et malgré les plusieurs siècles d'écart entre les deux, on a pu s'apercevoir qu'il n'y avait pratiquement aucune différence. Quelques différences au niveau, comme ce qu'on appellerait aujourd'hui des fautes de frappe. Il manquait un trait par-ci, un trait par-là. Peut-être un mot par-ci, par-là, qui avait été déformé avec le temps. Mais le contenu de ces textes était identique. La fiabilité historique des documents qui constituent la Bible est donc très largement établie. Alors qu'est-ce que c'est que la Bible ? C'est 66 livres qui ont été écrits sur à peu près 1500 ans. Je ne vous apprends rien. Dans deux langues principalement, et avec quelques parties dans une troisième langue. Écrit par une quarantaine d'auteurs, et ces auteurs appartenaient à des classes sociales et à des éducations, ils ont été éduqués de façon très différente les uns des autres. On a des rois, des paysans, des militaires, des serviteurs, des ministres, des philosophes, des médecins, des pêcheurs, un collecteur d'impôts, un rabbin, etc., etc. Tous ces textes ont été écrits dans des genres littéraires différents les uns des autres, dans des contextes historiques différents, et ils abordent une multitude de thèmes différents et bien souvent controversés. Vous mettez tout ça ensemble, qu'est-ce qu'il en ressort ? Une harmonie extraordinaire. Une harmonie extraordinaire, une cohérence qu'on ne peut pas fabriquer soi-même. Prenez cinq auteurs d'un même pays, disons la France, d'une même période, disons le XVIIIe siècle, d'une même profession, disons philosophe, d'un même mouvement, disons le mouvement des Lumières, sur un même sujet, disons l'éducation, et je vous mets au défi de les faire s'accorder ensemble. Mais là, vous voyez ce qu'on a dans la Bible, une cohérence et une harmonie tout à fait extraordinaires. On peut croire avec raison à la Bible. Troisièmement, un des arguments les plus importants qui montre la fiabilité de la Bible au niveau de ce qu'elle enseigne, ce sont les prédictions qui se sont réalisées dans l'histoire. Vous savez, la Bible se soumet elle-même à un test formidable d'authenticité. La Bible se soumet elle-même à un test formidable d'authenticité. Si vous lisez la deuxième partie de... Jérémie 28, la deuxième partie du verset 9, voici ce qui est dit. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'un prophète sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Ah, c'est pas mal comme test d'authenticité, ça. C'est dans la Bible. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'un prophète sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Et puis Moïse, déjà, dans le Pentateuque, avait écrit Deutéronome, chapitre 18. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est-à-dire que le prophète dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Eh bien, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur. Et maintenant, quand on étudie, par exemple, l'Évangile selon Matthieu, comme on est en train de le faire le jeudi soir, on voit combien, à quelle fréquence Matthieu nous pointe vers les prophéties qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Des prophéties de l'Ancien Testament, des prédictions qui se réalisent dans le Nouveau. On ne va pas les regarder en détail, mais vous, quand on lit les premiers chapitres de l'Évangile de Matthieu, c'est très frappant. Matthieu, à maintes reprises, il dit « Cela s'est passé afin que s'accomplisse la parole du prophète » ou « afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète », etc., etc., etc. Je vous lis un tout petit extrait là de ce livre-là, « Qui dites-vous que je suis ?» par Josh McDowell Pierre Muller, je crois. Voici ce qu'il dit. Il consacre toute une section très importante de son livre, aux prédictions de la Bible qui se réalisent. Voilà, toute cette partie-là que vous voyez au milieu-là. Et voici ce qu'il dit à la fin. Les travaux de Peter Stoner ont montré que la coïncidence ne peut être invoquée ici. De façon très précise, il a retenu 8 prophéties. Que Jésus était né à Bethléem, qu'il était précédé d'un messager, qu'il entrera à Jérusalem monté sur un ânon, qu'il sera trahi par un ami et vendu pour 30 pièces d'argent, qu'il aurait les mains et pieds percés, qu'il y a le prix de la trahison affecté au champ du potier, qu'il était muet devant ses accusateurs et crucifié avec des brigands. Eh bien, ce Peter Stoner a trouvé que la probabilité pour qu'un homme accomplisse en lui ces 8 prophéties était de 1 pour 10 à la puissance 17, donc 1 avec 17 zéros. De même, partant de l'étude de 48 prophéties, cette fois, non pas 8, mais 48, il affirme qu'il y a une chance sur 10 à la puissance 157 pour qu'elles trouvent toutes ensemble leur accomplissement en un seul homme. L'accomplissement des prophéties est pour nous l'accomplissement du dessein de Dieu qui agit dans et à travers l'histoire. Dieu a fait exprès que toutes ces prophéties trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Très humblement, nous laisserons la parole pour conclure à Blaise Pascal. Et voici ce que dit Blaise Pascal. La plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. En effet, Jésus-Christ est celui que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Et Blaise Pascal, c'était un scientifique. Quatrièmement, comment peut-on croire avec raison à Jésus-Christ ? On peut croire avec raison qu'il y a un Dieu, on peut croire avec raison à la Bible. Comment peut-on croire avec raison à Jésus-Christ ? Alors, est-ce que Jésus a vraiment existé, tout d'abord ? Il y a des gens qui nient, ou qui ont nié, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, qui ont nié l'historicité du personnage. Tout d'abord, je vous renvoie à ce qu'on a dit sur la fiabilité historique de la Bible, bien sûr. Les évangiles et tout le Nouveau Testament nous parlent explicitement de Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous en parle implicitement. Et deuxièmement, on peut aussi voir des écrits non chrétiens, par exemple des écrits de personnes qui étaient des historiens antiques, comme un certain Tacitus, un historien romain, qui a vécu à peu près 100 ans après, en l'an 100 après Jésus-Christ. Où est-ce que j'ai cette référence ici. Voici ce que Tacitus a écrit vers l'an 100. Néron accusa les gens qu'on appelle chrétiens et qu'on haïssait d'être responsables des incendies de Rome. Et il les châtia avec les tortures les plus horribles. Christus, le fondateur du nom, c'est-à-dire du nom chrétien, fut mis à mort par Ponce Pilate, le procurateur de la Judée, sous le règne de Tibère. Mais la superstition pernicieuse, réprimée pour un temps, apparut de nouveau, et non seulement dans la Judée où les problèmes avaient commencé, mais aussi dans la ville de Rome. Oui, ça c'est un historien qui n'est pas chrétien du tout, on peut s'en rendre compte, mais qui mentionne comme un fait historique que Christ a été mis à mort par Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que les textes des évangiles qui témoignent de la vie de Jésus-Christ, qui racontent sa vie, ont été écrits du vivant des gens qui ont été témoins de ces choses. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'écrivais un livre sur François Mitterrand, et que dans mon livre, donc François Mitterrand, il n'est plus là, donc il ne va pas m'inquiéter, mais qu'il y a des gens qui l'ont connu, et donc dans mon livre, je vais écrire que François Mitterrand, il a guéri des paralytiques, il disait qu'il était Dieu, il est mort et ressuscité. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si un tel livre sortait aujourd'hui ? Ça irait pas bien loin. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus, les gens ont écrit les évangiles du vivant des gens qui étaient là quand ces choses se sont passées. Donc on peut bien croire à l'historicité de Jésus et à l'historicité de ce qui nous est raconté à son sujet. Mais non seulement on croit que Jésus a existé, en tant que chrétien, on croit que Jésus était Dieu. Eh bien, quelle est la chose la plus incroyable que Jésus ait prétendue ? Je ne sais pas si c'était la plus incroyable, mais une des plus incroyables. On la trouve dans Jean chapitre 10, la prochaine prédication de Jonas, versets 31 à 33. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour lapider Jésus. Jésus reprit et leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons. » On ne sait pas à cause de quelque chose que Jésus a fait qu'ils veulent le lapider. « Mais c'est pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Comprenez la colère des Juifs. Jésus prétendait être Dieu. Dieu le Fils, Dieu en personne. Quel est le genre de personne qui dirait une chose pareille ? C'est C.S. Lewis qui a développé cet argument au sujet de l'identité de Jésus. Quel genre de personne prétendrait être Dieu en personne ? Ce serait soit un menteur, qui sait qu'il est en train de mentir, qui ment délibérément, soit ce serait un fou, quelqu'un qui aurait complètement perdu la raison, soit ce serait quelqu'un qui dirait la vérité et qui serait effectivement le Fils de Dieu. Alors Jésus était-il menteur ? Le problème, c'est que s'il était menteur, ça rentrerait un petit peu en contradiction avec le reste de son enseignement qui est bien au contraire pour la vertu. Mais surtout, ça pose un problème parce qu'on ne voit pas quel intérêt Jésus avait à mentir à ce sujet. Ça ne lui a attiré que des ennuis. Il en est mort. Alors, est-ce que Jésus était fou ? Est-ce qu'il avait complètement perdu la raison ? Le problème, c'est que, à part les choses qu'il dit, Jésus ne présente pas vraiment les caractéristiques d'une personne insensée. Des foules le suivaient. Il a eu une extraordinaire influence, non seulement de son vivant, sur terre, mais encore pendant les 2000 ans qui ont suivi. Écoutez ce témoignage très intéressant qu'on lit dans le livre des Actes. C'est le Sanhédrin qui est en train de discuter de ce qu'il faut faire de ces chrétiens qui sont un peu perturbateurs. Et il y a un pharisien qui prend la parole et qui dit ceci. « Il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, c'est-à-dire des chrétiens. » Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a été écrit au 1er siècle, ça. Sans savoir ce qui se passerait dans l'histoire depuis. On regarde en arrière, 2000 ans, et on relit ce verset. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Le christianisme, c'est la première religion du monde aujourd'hui. Donc c'est quand même assez extraordinaire, non? Est-ce qu'un fou aurait pu avoir une telle influence? La seule option qui nous reste, c'est que Jésus disait vrai lorsqu'il disait être le Fils de Dieu. On peut le croire, et on a des raisons de le croire. Enfin, la résurrection de Jésus. Voilà un événement étonnant. Je vais essayer d'aller vite. D'après la Bible, notre foi repose sur cet événement, sur la résurrection de Jésus. Donc c'est extrêmement important. C'est le fondement de toute l'espérance chrétienne. Sans résurrection, la foi chrétienne n'a aucun sens. On est les plus malheureux des hommes, dit Paul. Mais si la résurrection de Jésus est bien avérée, alors personne ne peut rester indifférent face à cet événement. C'est tellement incroyable qu'on est obligé de se positionner. D'où une question essentielle dont la portée est existentielle. Jésus est-il vraiment ressuscité? Jésus est-il vraiment ressuscité? Comment savoir si c'est vrai? Eh bien, comment faites-vous pour d'autres informations? Si je vous disais que lundi dernier, je suis allé faire une randonnée avec Jonah. Vous direz, non, c'est pas possible. Ouais, on est monté à 3000 mètres. Non, Alex, t'es pas capable de monter à 3000 mètres. Un être chétif comme toi, 3000 mètres, 1600 mètres de dénivelé, c'est pas possible. Comment est-ce que vous vérifieriez l'information? La première question que vous poseriez, c'est est-ce que c'est possible? La deuxième question que vous poseriez, c'est qui peut en témoigner? La troisième question, c'est quelles sont les traces consécutives à cet événement? Quatrièmement, quelles sont les alternatives si ce n'est pas vrai? Évidemment, à l'issue de ces questions, vous devriez pouvoir vous positionner de façon intelligente et informée. Si on applique cette méthode à la résurrection de Jésus, je suis convaincu que nous avons toutes les raisons de croire que ça s'est bien passé. Est-ce que c'est possible que Jésus soit ressuscité? Je l'ai dit, certaines choses sont absurdes, des choses absurdes qui défient la logique ne sont pas possibles. Mais la résurrection de Jésus n'est pas absurde, elle ne défie pas la logique. D'autres choses sont simplement incroyables. Incroyables. La résurrection de Jésus est incroyable, mais elle est vraie. Est-ce que Jésus a pu ressusciter? Si Dieu existe, bien sûr qu'il a pu ressusciter. Si Dieu existe, il est bien sûr capable de le faire. Donc c'est possible. Alors qui peut en témoigner? D'après la Bible, plusieurs centaines de croyants en ont témoigné, à commencer par les disciples eux-mêmes. La résurrection était au cœur du témoignage des premiers chrétiens. Ce n'est pas un témoignage isolé, mais pendant des décennies, des centaines de chrétiens annonçaient la même chose sans qu'on les contredise de manière efficace. Si on avait pu leur clouer le bec une fois pour toutes, ça aurait été fait, n'est-ce pas? Comme moi avec mon livre sur François Mitterrand. Mais ça n'a pas été fait. Personne n'a pu contredire ce témoignage. Alors troisièmement, quelles sont les traces consécutives à cet événement? Les traces consécutives à la résurrection de Jésus. Eh bien, si on lit les évangiles, on découvre qu'au moment de la crucifixion, au moment où Jésus est mort, les disciples se sont dispersés, certains ont même renié Jésus, comme Pierre, ou l'ont tout simplement abandonné. Pourtant, après cet événement, après la mort de Jésus, le nombre de croyants va exploser littéralement. L'Église va s'organiser autour d'un culte, le culte d'une personne vivante de Jésus-Christ ressuscité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les chrétiens se réunissent le dimanche et non pas le samedi, parce que Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat. Et c'est ce jour-là qui est devenu le jour du Seigneur. Le fait que les chrétiens se réunissent le dimanche, c'est une trace consécutive à la résurrection de Jésus. Quelles sont les alternatives si Jésus n'était pas vraiment ressuscité? Comment expliquer ce qui s'est vraiment passé alors? Alors ceux qui nient la résurrection de Jésus doivent proposer ces alternatives, des alternatives qui sont censées être crédibles ou vraisemblables. Quelqu'un a proposé que Jésus était seulement dans un coma sur la croix. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des croyants qui ont témoigné de la mort de Jésus, il y a des incroyants qui ont témoigné de sa mort. Il a été enroulé dans des bandelettes, il a été placé dans un tombeau avec une pierre devant. Médicalement, c'est totalement invraisemblable qu'il n'était pas vraiment mort sur la croix. Alors, d'autres personnes ont proposé que le corps de Jésus a été volé. C'est d'ailleurs ce qui est raconté à la fin de l'évangile de Matthieu. Volé par les disciples, par exemple. Mais ses disciples étaient abattus. Ils n'étaient pas très forts, ils étaient timides, ils avaient peur. Il fallait qu'ils surmontent la garde romaine qui était placée devant la tombe. Il fallait en plus qu'ils déplacent eux-mêmes la pierre tombale. Comment est-ce qu'ils auraient pu le faire? C'est pas très vraisemblable. Ou alors le corps a été volé par quelqu'un d'autre et les disciples ont pensé que Jésus était ressuscité. Mais pour quel motif? Pourquoi quelqu'un aurait volé son corps? Et si des Juifs ou des Romains l'avaient volé, le corps, ils n'avaient qu'à le restituer pour prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Et ils auraient pu mettre un terme à ce mouvement du christianisme. Alors une autre possibilité qui a été soulevée, c'est que les disciples ont eu une hallucination ou une vision quand ils ont vu Jésus ressuscité. Le problème, c'est que les témoignages qui nous sont donnés dans les évangiles affirment le contraire. C'était bien vrai. Quand c'est un rêve ou une vision, ils le disent. Quand ça ne l'est pas, ils le disent aussi. De plus, si c'était vraiment qu'une vision, le corps de Jésus serait quelque part aujourd'hui. Et il ne l'est pas. Il n'est pas sur terre, en tout cas. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés de tombeau? Ils sont allés vers un tombeau en pensant que c'est celui de Jésus. Ils ont trouvé un tombeau vide et ils ont dit « Ah, il est ressuscité ». Le problème, c'est que ça voudrait dire que tous les disciples ont fait la même erreur. Alors, vraiment, ils n'étaient pas très malins. Il n'y en a pas un qui aurait remarqué que ce n'était pas le bon tombeau. Et puis, c'est toujours le même problème. Si le corps de Jésus était réellement resté enterré dans le tombeau, quelqu'un l'aurait montré et aurait dit « Vous voyez, Jésus n'est pas ressuscité, donc arrêtez les chrétiens avec vos bêtises. Personne n'a pu le faire. » Et dernièrement, quelqu'un a pu suggérer que les disciples ont menti au sujet de la résurrection de Jésus. Le problème, là aussi, c'est que pourquoi? Dans quel intérêt auraient-ils menti? Les disciples étaient prêts à mourir pour un mensonge, vraiment? Finalement, on reste devant ce constat. Les opposants aux chrétiens auraient pu produire le corps de Jésus s'ils l'avaient. D'autres témoins auraient pu contredire le témoignage des disciples et ils ne l'ont pas fait. Mais devant l'absence du corps de Jésus, devant l'absence de contre-témoignages historiques et devant les affirmations de ces centaines de témoins, quelle explication est la plus plausible concernant la résurrection de Jésus? On a des raisons d'y croire. Ça s'est vraiment passé. Je veux terminer avec ce verset très intéressant dans Actes 17. C'est Paul qui témoigne de l'évangile à des philosophes grecs, d'accord? À l'Aréopage. Et en conclusion de son discours, de son témoignage, voici ce qu'il dit. Il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. » Alors jusqu'ici, on est en plein dans le témoignage chrétien, effectivement. Repentez-vous, parce qu'il y a le jugement qui arrive, soyez sauvés de vos péchés, etc., etc. Et voici ce qu'il ajoute. « Et Dieu en a donné à tous une preuve digne de foi en ressuscitant Jésus d'entre les morts. » Dieu a donné une preuve digne de foi de tout le reste, c'est la résurrection de Jésus. Une fois qu'il a dit ça, Paul est interrompu, c'est ce que nous dit le texte. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dieu a donné une preuve digne de foi. Il a ressuscité Jésus, mais c'est aussi Dieu qui donne la foi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au départ? La foi chrétienne, ce n'est pas un suicide intellectuel. La foi chrétienne, vous l'avez vu, vous avez pu le voir, j'espère, cet après-midi, elle est rationnelle, elle est logique, elle est cohérente. Elle ne contredit pas l'intelligence, elle ne contredit pas la science, elle ne contredit pas la raison, elle ne contredit pas la logique, elle ne contredit pas l'histoire.